Midi 1. Mariam, Matin Famille.
Merci à vous de votre fidélité. Nous sommes toujours ensemble, bien évidemment, pour parler santé, pour parler bien-être, pour parler psychologie. Et on s'intéresse aujourd'hui également aux troubles de l'attention et hyperactivité. Donc, on fait un zoom sur ce trouble caractérisé par des difficultés à se concentrer, une impulsivité marquée, un double trouble qui pourrait donc concerner aussi bien les enfants que les adultes. Et pour en parler, avec nous aujourd'hui en direct, Najwa Yabi, bonjour.
Bonjour Mariam, bonjour. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices.
Merci de répondre toujours présente à cette invitation sur Média.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Alors vous êtes orthophoniste, d'abord comment définir trouble d'attention et hyperactivité?
Ben écoutez, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, il apparaît dès le jeune âge, avant 7 ans. C'est un trouble qui est inné, il n'est pas acquis. Les enfants qui en sont atteints présentent des problèmes d'attention et de concentration qui sont souvent accompagnés d'hyperactivité et d'impulsivité, et ceci à des degrés divers qui provoquent des difficultés d'adaptation, tant pour le jeune enfant que pour son entourage. Ce trouble est aussi responsable de difficultés comportementales et de nombreux échecs scolaires.
Oui.
Et j'insiste aussi, pas tous les enfants turbulents sont des hyperactifs. L'hyperactif, c'est celui qui ne peut s'empêcher de bouger, quelles que soient les conditions dans lesquelles il se trouve.
Oui, c'est vrai qu'on a tendance à dire que cet enfant ou tel enfant est hyperactif. On a tendance à utiliser ces derniers temps cet adjectif. Donc voilà, peut-être à tort, souvent à tort, je dirais.
Oui, effectivement, parce qu'il y a la difficulté, il y a le trouble. Enfin, le trouble est persistant. D'accord. Et l'enfant ne peut pas se tenir calme, ni en classe, ni à la maison, ni au lit, par exemple. Enfin, l'hyperactivité ne le quitte pas. C'est aussi un enfant qui ne peut pas se concentrer sur une tâche. Mmh. Son attention est très fluctuante, un enfant impulsif, verbalement ou même par geste. Évidemment, c'est un enfant qui a du mal à se contrôler. Donc voilà, ces signes-là sont donc regroupés sous le terme TDAH, c'est-à-dire trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité.
D'accord. Et quand on parle avec ou sans hyperactivité, comment reconnaître, comment faire la différence?
Vous savez, il y a trois symptômes, les principaux symptômes, la triade symptomatique. Il y a l'inattention, donc c'est un enfant qui a des difficultés à maintenir son attention dans le temps, des difficultés aussi à diviser son attention entre plusieurs tâches. C'est aussi un enfant qui n'arrive pas à inhiber les informations non pertinentes, rapidement distrait. Donc, c'est vrai, c'est des enfants qui n'ont pas un manque d'attention, mais bien une difficulté à gérer leurs compétences attentionnelles. Il y a aussi des difficultés au niveau de l'hyperactivité. Voilà, ça se manifeste comment? Avec des enfants qui ont des difficultés, une activité motrice ou verbale excessive. C'est-à-dire qu'ils bougent beaucoup, ils parlent davantage que les autres enfants de leur âge et parviennent difficilement à rester calmement en place. Au niveau des compétences cognitives, cette hyperactivité entraîne la présence de multiples pensées parasites et provoque une habitude de sauter de coq à l'âne, du coq à l'âne, tant dans les paroles que dans les réflexions internes.
Oui.
C'est des enfants aussi impulsifs, voilà, l'impulsivité. Enfin, c'est des enfants qui ont du mal à choisir des réactions appropriées face à une situation donnée. Donc cela pose d'importants problèmes, tant comportementaux que cognitifs. Au niveau comportemental, le contrôle de soi est plus difficile que pour les autres enfants. Au quotidien, cela se traduit de diverses manières. Il interrompt fréquemment les autres. Un enfant qui ne sait pas patienter, un enfant qui agit sur un coup de tête. Et aussi au niveau cognitif, c'est un enfant qui a du mal à réfléchir calmement, à anticiper les conséquences de ses actes et aussi à envisager les différentes solutions d'un problème.
D'accord. Et ces enfants à risque, justement, d'où vient ce trouble, j'ai envie de dire?
Les personnes à risque sont celles les plus proches d'une personne déjà diagnostiquée.
D'accord.
Alors, si un parent, par exemple, a un TDAH, il y a entre 40 et 57% de risque que l'enfant en souffre également.
D'accord.
Donc, il y a, il y a le côté héréditaire. Les périodes pré- et périnatales sont décrites aussi comme essentielles pour le développement du cerveau. Donc, accumuler des facteurs de risque à ce moment, comme l'alcoolisme, l'usage de stupéfiants et même de provoquer des lésions au niveau du cerveau en formation, qui est en formation, et favoriser aussi le développement d'un TDAH. Au niveau alimentaire aussi, il est possible qu'une minorité d'enfants soit sensible aux additifs alimentaires. Aussi, les carences en oméga 3 sont également parfois décrites dans le cadre d'un TDAH. Et en fait, à l'heure actuelle, les chercheurs tendent à s'entendre sur le fait que le TDAH serait un trouble essentiellement génétique, mais dont les facteurs environnementaux peuvent influencer son évolution.
D'accord. Alors, les difficultés au quotidien. Joyeux, vous êtes, je rappelle que vous êtes orthophoniste. De quoi souffrent ces enfants au quotidien? Est-ce que c'est une souffrance, finalement?
Énormément. C'est des enfants qui souffrent beaucoup. On note une lenteur dans les routines quotidiennes. Le matin, pour se lever, se préparer pour aller à l'école, le bain, pendant les repas, pour aller se coucher le soir. Ce sont des enfants souvent désordonnés. Ils oublient rapidement. Pour la plupart des familles, les devoirs sont source de conflits. Donc, car les enfants sont au bout de leurs ressources et les parents au bout de leur patience. Donc, c'est la fatigue, c'est l'opposition, l'enfant qui fait le contraire de ce qui est demandé, c'est la perte de motivation, c'est des devoirs qui peuvent durer des heures et des heures. C'est aussi des enfants qui notent pas leurs devoirs dans le journal de classe, des enfants qui abandonnent facilement face à toute difficulté. Et au niveau comportement, ils sont impulsifs. Ils adoptent des comportements inadéquats, comme l'opposition, les mensonges, l'agressivité. Et aussi, c'est des enfants qui se fâchent rapidement, mais qui pardonnent aussi rapidement.
D'accord. OK. Alors, vous avez parlé de ces parents, justement, qui en souffrent également. Alors, ces parents, je dirais l'entourage, comment cet entourage peut-il aider?
Des études ont montré qu'une pratique régulière d'activité physique, c'est-à-dire sportive, contribue à de meilleures capacités et de concentration et de vitesse de traitement. Donc, on conseille de pratiquer le sport. On demande
tous les sports ou il y a un sport particulier à privilégier?
Enfin, tous les sports aident énormément. Là où on bouge beaucoup, ça permet de dégager. Là, on pratique une activité douce, ça permet de se contrôler. Donc, ça aide dans tous les sens. Donc, en tout cas, il faut toujours demander à l'enfant parce que ça dépend aussi de ce qu'il aime. Ça, parce que quand l'enfant est motivé, ça donne. Et aussi de réaliser surtout des procédures visuelles, c'est-à-dire pour que l'enfant sache où il en est, et ce qu'il lui reste à faire. Enfin, ceci est très structurant et responsabilise l'enfant à chaque moment de la journée. Comme par exemple faire des plannings de la semaine, les avoir un peu dans la chambre ou sur le frigo, sur la porte de la chambre de l'enfant, ça l'aide énormément. D'accord. Il est important aussi de rencontrer les enseignants pour leur expliquer de quoi souffre l'enfant et créer un partenariat. Et je rappelle aussi aux parents l'importance de faire des demandes efficaces, c'est-à-dire réduire le nombre de demandes. Ceci peut aider l'enfant à réaliser ce qu'on exige de lui.
Établir donc ne lui demander que l'essentiel finalement et ne pas trop demander, c'est ça?
Effectivement, car on ne peut pas se battre sur tous les fronts, donc il faut faire une chose à la fois. Et comme les enfants TDAH ont des difficultés au niveau de la mémoire de travail, la mémoire à court terme, ils ont tendance à oublier. Donc il faut aller tout doucement avec ces petits-enfants. J'insiste aussi sur un point qui est la cohérence entre les parents, parce que ça joue un grand rôle dans la sécurité affective de l'enfant d'une part, et d'autre part, ça donne plus de poids aux demandes. Donc, c'est-à-dire si un parent exige quelque chose de l'enfant, il est important que l'autre parent soutienne son conjoint.
D'accord.
Donc, il faut qu'il y ait une certaine communication dans le couple pour pouvoir aider l'enfant à pouvoir surmonter ses difficultés.
D'accord. Alors maintenant, si ce n'est pas traité à temps, quelles pourraient être les conséquences donc sur cet enfant à moyen ou à long terme?
Les conséquences à un TDAH qui n'est pas pris en charge peut avoir de multiples conséquences. Des problèmes relationnels, des tensions dans le couple, c'est-à-dire les parents, aussi dans la fratrie, le rejet, l'isolement, l'augmentation du degré d'inquiétude pour l'avenir scolaire et professionnel, une faible estime de soi, l'anxiété, le stress. Et il y a l'adolescence, des jeunes qui cherchent des comportements à risque, des comportements déviants, risque de dépendance. Ils peuvent développer une phobie scolaire et ils ont moins de chances de faire des études supérieures.
D'accord. Alors, est-ce qu'un enfant TDAH restera TDAH à vie?
Alors, déjà, le TDAH, c'est un dysfonctionnement cérébral qui concerne certaines zones, comme les lobes frontaux et le cortex préfrontal. Donc là, il y a une diminution du débit sanguin qui est observée à ces niveaux et aussi un dysfonctionnement de la dopamine et de la noradrénaline. Donc, les enfants qui présentent un TDAH ont besoin d'un traitement soit médicamenteux, soit d'une prise en charge multidisciplinaire, thérapeutique, qui nécessite l'intervention de plusieurs spécialistes, une équipe spécialisée pour aider l'enfant à surmonter ses difficultés. Donc, c'est un trouble, voilà, c'est pas une difficulté, c'est pas passager. C'est un trouble qui persiste et un enfant qui a toujours besoin d'aide, mais grâce à l'aide et grâce au soutien des professionnels de la santé et de la famille, l'enfant arrive quand même à vivre sa vie, on peut dire normalement, avec quelques difficultés attentionnelles, mais ou une petite activité, mais qui dérange pas ni lui ni les autres. C'est un enfant qui arrive quand même à se contrôler.
D'accord. Alors, vos conseils à tous ces parents qui se reconnaissent dans tout ce qu'on se dit, vos conseils à ces parents qui nous écoutent ce matin sur Médien, je rappelle, Najwa Yabi, que vous êtes orthophoniste.
Voilà, comme ces enfants présentent beaucoup de difficultés, que ce soit au niveau du comportement, que ce soit au niveau verbal, que ce soit au niveau des apprentissages scolaires, on a tendance à toujours reprocher à l'enfant, si on peut dire, les bêtises, d'après les parents, parce que ce ne sont pas des bêtises. Il faut toujours penser à récompenser, ce qui est fait de façon satisfaisante. Il faut accepter les erreurs de l'enfant et sa différence, aussi sensibiliser l'école aux besoins de l'enfant et consulter surtout un professionnel de la santé, éviter d'adopter un comportement agressif, aussi éviter les injonctions qui diminuent les efforts, comme par exemple tu peux faire mieux si tu essaies davantage. Ça aide pas l'enfant, au contraire ça le bloque, et aider l'enfant surtout à exprimer ses émotions, au besoin carrément les reformuler avec lui. Et il faut maintenir une homogénéité dans tous les domaines pour qu'on puisse aider ce petit à pouvoir participer à toutes les activités, que ce soit à l'école, en famille ou même avec d'autres enfants.
Parfait, Najwa Yabi, mille merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions sur Médien. Je rappelle que vous êtes orthophoniste à Témara. Je rappelle que cet entretien est réécoutable sur notre site médien.com. À très bientôt, Najwa Yabi.
Je vous remercie. Excellente journée, Marielle.
Bonne journée.